chaque vendredi, nous vous proposons un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, l'économie de l'identité de Rachel Cranton et George Akerlof, un ouvrage publié en 2010. Et c'est Claudia Sénic qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Alors l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, l'économie de l'identité, a donc été coécrit par Rachel Cranton et George Akerlof. Qu'est-ce qui les a réunis autour de ce projet ?
Rachel Cranton était l'étudiante en thèse de doctorat de George Akerlof. Et George Akerlof a toujours introduit toutes sortes de choses venues de d'autres sciences sociales, d'autres intuitions dans la théorie économique. Et à ce moment-là, il travaillait sur la distance sociale, le fait qu'on se comportait différemment envers des gens qu'on jugeait plus ou moins proches de soi. Et Rachel Cranton a dit « oui, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire, proche de soi, c'est quoi ?» Et c'est là que l'idée de groupe et d'appartenance de groupe est apparue.
C'est là qu'elle a commencé à lui dire qu'il fallait introduire la notion d'identité dans la représentation de la consommation.
Voilà, dans les choix des gens, de consommation, d'éducation, toutes sortes de choix en fait. Alors l'identité, c'est pas l'identité de l'individu à soi-même, c'est l'identité sociale, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un groupe de gens avec qui on partage des caractéristiques et qui du coup vont... Il y aura des normes de comportement et des images de soi qui vont découler de cette appartenance. Donc c'est vraiment l'identité sociale de groupe.
Et alors pourquoi est-ce que Cranton et Akerlof cherchent à intégrer les normes sociales et l'identité à l'analyse économique ? Quel est leur constat de départ ?
Leur constat de départ, c'est que si on ne prend pas ça en compte, si on ne prend pas en compte dans les choix des individus, dans leur comportement, le fait qu'ils sont influencés par l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes en tant que membres d'un groupe, donc la partie sociale de l'individu, y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer. Le modèle simple qui se passe de ça ne prédit pas plein de comportements dans l'entreprise, dans l'école. Et donc, en fait, il faut intégrer ces hypothèses et ces paramètres dans le modèle. Ce qui n'est pas évident parce que en économie, on a ce principe très très fort de parcimonie. C'est-à-dire qu'on veut expliquer le monde avec des modèles qui reposent sur très peu d'hypothèses. En gros, la rationalité individuelle, qui veut dire en gros être efficace et cohérent. Et puis, c'est à peu près tout.
Et alors, l'économiste Gary Becker avait déjà ouvert la voie, mais son approche pose un certain nombre de problèmes, selon Cranton et Akerlof.
Voilà, donc Gary Becker, l'école de Chicago, c'est l'approche classique, standard, où les individus ont ces fameuses motivations, et elles leur viennent bien sûr de quelque part, leur éducation, etc. Elles leur viennent de domaines qui ne sont pas les domaines d'études de l'économiste normalement, qui doivent être étudiés par les anthropologues, les historiens, les psychologues, les psychanalystes, enfin tout ce qu'on veut. Et les économistes prennent ça comme une donnée. L'individu, il a ses objectifs et on prend ça comme une donnée. Et donc on dit, des gustibus non est disputandum, on discute pas des goûts et des couleurs. Ça c'est Gary Becker. Et ce que rajoutent en fait Akerlof et Cranton, c'est de dire non, mais en fait dans la vraie vie on discute tout le temps des goûts. On passe son temps à se disputer sur comment se doit comporter une femme, un homme, quelqu'un de jeune ou de vieux, etc. Donc on va en fait endogénéiser, c'est-à-dire essayer d'expliquer comment apparaissent ces goûts et ces couleurs, le faire rentrer dans le modèle économique. Donc en fait c'est toujours pareil, c'est l'économie qui s'étend. Ce qu'avait fait Gary Becker par rapport à l'économie standard, c'est d'étendre le champ de l'économie en expliquant les comportements de choix du conjoint au sein du ménage, l'économie du mariage, etc. C'était de faire aller l'économie dans des domaines qui étaient normalement pas les leurs. Ce que font Cranton et Akerlof, c'est maintenant, dans les outils même de l'économie, de faire rentrer des concepts qui viennent d'ailleurs.
Et pour ça, ils vont élaborer un modèle général et notamment développer une nouvelle notion qui est la notion d'utilité identitaire. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Donc, quand l'individu se sent appartenir à un groupe de gens parce qu'il partage avec ces gens des caractéristiques, du coup, il y a certaines attentes qui émanent de ce groupe et aussi de l'autre, des autres groupes d'ailleurs. Comment on se comporte quand on est une femme ? Il y a des attentes qui viennent des femmes et des hommes. Et à ce moment-là, si on se comporte conformément à ces normes, on se sent bien et si on s'en écarte, on se sent pas bien. Et de même, chaque groupe suscite une espèce d'image idéale de ce que c'est que le membre du groupe. Par exemple, l'école suscite, peut-être involontairement, l'image de l'élève idéal. Et si on est proche de cette image, on se sent bien. Et si on s'en éloigne, on ne se sent pas bien. On peut interpréter ça ou exprimer ça en termes de gains et de coûts, ou de récompenses et de coûts.
Et alors, les deux économistes, donc Cranton et Akerlof, vont tenter d'appliquer leur modèle à une première organisation, l'entreprise. Et ils vont chercher à évaluer l'effet de l'identité d'un travailleur sur son implication au travail. Quelle est alors leur méthode, Claudia Sénic?
Bon, ce sont des théoriciens. Donc, ils se disent, dans l'entreprise, d'habitude, on représente le comportement des salariés comme étant sujet essentiellement aux incitations monétaires. En fait, évidemment, il y a autre chose. Il y a des incitations d'ordre symbolique. On peut s'identifier au projet de l'entreprise, à sa culture. Et ça joue. Et le cas extrême, c'est l'armée. où l'armée délibérément crée l'image du soldat idéal et l'incitation à l'action n'est pas du tout monétaire, évidemment, elle est complètement symbolique et complètement identitaire. Et en fait, ils mettent en évidence le fait que dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a toute une partie qui est bien sûr l'incitation monétaire, mais il y a toute une partie d'adhésion au modèle de l'entreprise. Et du coup, il peut y avoir une substitution ou une complémentarité entre les deux.
Mais alors, est-ce que l'entreprise peut modifier l'identité sociale de ses travailleurs?
On sait qu'il y a des entreprises qui arrivent très bien à créer une culture propre. Effectivement, les employés trouvent que les objectifs de l'entreprise sont bien alignés avec leurs valeurs. Et dans ce cas, ils sont assez motivés. Et puis, dans d'autres cas, ça ne marche pas.
Alors, il y a une autre conclusion qui ressort des travaux de Crampton et Akerlof. C'est le fait que les travailleurs s'identifient davantage à l'organisation quand la supervision est moins stricte. C'est aussi quelque chose qu'ils mettent en avant.
Si on pense qu'il faut que les travailleurs créent une identité commune, il faut leur laisser un peu plus de marge de manœuvre de manière à laisser émerger des cultures particulières dans des groupes de gens qui travaillent ensemble. Ça va dans le sens de moins de bureaucratie, moins de contrôle, moins de surveillance, moins de tous ces process qu'on voit en ce moment se développer et qui sont très très délétères, je crois.
Alors il y a un autre cas d'étude que vous avez cité, Claudia Sénic, c'est l'école. Akerlof et Crampton essayent de comprendre pourquoi certains individus échouent sur le plan scolaire. Alors comment le modèle qu'ils ont élaboré les aide?
Donc chaque école crée l'image de l'élève idéal et donc les élèves réels arrivent avec leur milieu d'origine et avec une certaine idée d'eux-mêmes, une idée sociale d'eux-mêmes, du groupe auquel ils appartiennent. Si l'image de l'élève idéal et l'image de l'individu que eux sont coïncident, à ce moment-là tout va bien. L'élève facilement adhère aux objectifs de l'école, réussit, etc. S'il y a une dissonance entre les deux, du coup ça crée une sorte de conflit intérieur. Mmh. Et là, du coup, pour ne pas se dissocier de son groupe d'appartenance initiale, l'enfant peut finalement refuser d'adhérer au modèle de l'école.
Et donc c'est comme ça qu'elle explique l'échec scolaire d'un pourcentage important d'élèves noirs.
Voilà, ils font une espèce de petite enquête où ils demandent aux gens comment ils se comportent à l'école et comment ils se voient eux-mêmes. Ils établissent des catégories d'élèves, ceux qui s'identifient à des élèves très sérieux, nerds, ceux qui s'identifient à des élèves plus populaires. Et on voit très bien qu'il y a des différences dans la motivation au travail. En France, c'est pareil. Enfin, on est soit un télo, par exemple, ça veut dire qu'on travaille trop. Populaire, ça veut dire qu'on est cool, on a beaucoup d'amis. Si on s'identifie à un groupe, ou alors on est assigné à un groupe par les gens, par exemple, si on veut être populaire, ça va être dur de travailler trop bien.
Oui, mais ces catégories, elles sont créées par les élèves. Alors, quelle est la marge de manœuvre des établissements?
Alors, ce que disent Akerlof et Crampton, c'est que les établissements peuvent essayer de s'adapter un peu à leur public. Donc, il y a une espèce de dilemme entre leur apprendre des choses qui seront utiles pour eux plus tard, mais en même temps, il faut s'adapter à leur style de manière à ne pas les mettre dans cette situation de conflit intérieur. Donc, pour certains publics, il faut créer une image de l'élève idéal qui soit proche du public.
Crampton et Akerlof expliquent que c'est une manière de remédier à l'échec scolaire.
L'économie de l'éducation s'intéresse beaucoup aux ressources, aux salaires des profs, à la taille des classes, etc., à la mixité. Et eux, ils disent qu'il y a un élément supplémentaire, c'est de jouer sur l'identité, effectivement, de l'école et de la classe.
Mais alors, ce que proposent finalement Crampton et Akerlof, c'est tout simplement de changer nos représentations sociales. Ça paraît un objectif assez ambitieux.
C'est possible parce qu'en fait, il y a une espèce de chaîne qui va des institutions vers l'identité. Par exemple, ce qui a été observé récemment, aux États-Unis, il y a un dispositif, je ne me souviens plus du numéro, mais enfin une loi qui est passée et qui dit qu'on doit dépenser autant d'argent pour les filles que pour les garçons à l'école. Or, aux États-Unis, on dépense énormément d'argent pour le sport. Du coup, on s'est mis à dépenser énormément d'argent pour le sport des filles. Et du coup, les filles sont devenues plus sportives et ça change leur image d'elles-mêmes. Et ça change l'identité féminine. Et on voit que la politique publique peut avoir un impact sur l'identité.
Pour démontrer l'importance du sentiment d'appartenance à un groupe et ses effets sur l'économie, Rachel Crampton a mené des expériences inspirées d'une expérimentation menée dans une colonie de vacances à côté des travaux qu'elle a menés avec Georges Akerlof.
Voilà, moi c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. C'est cette idée que l'identité de groupe, c'est l'appartenance à un groupe, mais immédiatement, dès qu'on dit appartenance, on dit aussi différence. Parce que appartenir à un groupe, c'est ne pas appartenir aux autres groupes. Et ce sentiment d'appartenance crée souvent des comportements de préférence, de favoritisme envers les membres de mon groupe, et puis peut-être d'animosité ou de discrimination envers les membres de l'autre groupe. Et la question, c'est ces groupes, est-ce qu'ils sont naturels ou est-ce qu'ils sont artificiels? Ils peuvent très bien être complètement artificiels. Ce qui est naturel, c'est ce qui est donné. Bon, je suis une femme ou un homme, je suis jeune ou vieux, bon, ça c'est donné, bon, plus ou moins. Mais il y a tout un courant de la psychologie sociale qui a montré qu'on pouvait créer de manière complètement artificielle des groupes. Par exemple, en 1954, un chercheur qui s'appelle Robert Cave a fait une intervention dans une colonie de vacances aux États-Unis, des garçons de 11 ans, à peu près homogènes, blancs. Il les répartit en deux groupes au hasard, en séparant les amis, et il leur dit, vous préparez pour une compétition sportive qui aura lieu la semaine prochaine. Toute la semaine, ils se préparent, ils se motivent, team building, etc. Et la semaine suivante, quand ils arrivent pour le match, ils sont tellement mobilisés, ils ont tellement créé une identité de groupe que ça se passe de manière assez conflictuelle, avec des comportements hostiles, des insultes, voire de la violence physique.
Et c'est ça
alors
qu'en
fait, il n'y avait rien au début. Voilà, donc elle mène une série d'expériences qui sont des expériences de typiquement qu'on fait en labo. Donc on fait venir des gens en labo. Bon, un labo, c'est juste une salle avec des ordinateurs. Hein. Et on les fait jouer à un jeu. Bah, c'est quasiment pas un jeu. Vous allez voir, c'est très simple en fait. On arrive et puis on vous dit, vous êtes à Paris avec quelqu'un. Donc vous et moi, par exemple. Et voilà, choisissez. Est-ce que entre deux répartitions de revenus, donc deux gâteaux qu'on va découper de manière différente, est-ce que vous préférez 140 pour vous et 40 pour moi ou 100 chacune? Ou alors 140 pour vous et 100 pour moi, ou 80 pour vous et 0 pour moi. Et avant de faire ça, on répartit les gens dans des groupes. Un groupe qui est assez naturel, au sens où on leur demande s'ils sont plutôt républicains ou démocrates, ce sont des Américains ou rien. Et une autre division complètement arbitraire, où on montre aux gens des photos de paysages, des tableaux, etc. Et on leur demande lesquels ils préfèrent. Et ensuite, on forme des groupes par proximité de goût. Des choses qui ne sont pas extrêmement clivantes dans la vraie vie, si je préfère tel ou tel tableau de Kandinsky ou de Klee. Et donc, les gens, quand ils sont appariés de manière aléatoire avec quelqu'un, on leur fait savoir si la personne qui est avec eux, elle fait partie du même groupe ou pas, du groupe politique ou du groupe esthétique.
Mmh. Et si l'autre est opposé à soi, on va avoir moins tendance à lui permettre d'avoir plus d'argent.
Si j'étais un pur homo economicus, je choisirais toujours la répartition qui me donne le plus grand gain. Sachant que ces gains, ils vont vraiment être donnés à la fin. Si je suis un homo economicus avec des sentiments de justice, d'égalité, etc., comme souvent on voit dans ces expériences, je vais essayer de minimiser l'écart entre vous et moi. Je vais être un peu altruiste. Je ne vais pas vous laisser avec 40 euros alors que moi j'aurai 140. Mais ça va dépendre peut-être du groupe auquel on appartient. Et ce qu'on voit en général, c'est que si on n'est pas du même groupe, ben en fait je ne vais pas vous favoriser. Je vais au contraire plutôt discriminer. Mmh. Et si on est du même groupe, je vais être plus gentil. Le résultat, c'est que les gens sont effectivement en moyenne assez groupies, comme elle dit, c'est-à-dire claniques. Et en fait, que ça soit politique ou culturel, ils ont tendance à favoriser ceux qui sont comme eux. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a de l'hétérogénéité, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas pareil. En fait, il y a un peu moins de la moitié des gens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils favorisent toujours les gens qui sont du même groupe qu'eux, esthétique ou politique. Mm-hmm. Il y a 20% des gens qui sont vraiment méchants, c'est-à-dire quand ils sont avec quelqu'un qui n'est pas du même groupe, ils font exprès de réduire son revenu, juste parce qu'ils veulent le punir. Par exemple, si je suis démocrate et vous êtes républicain, ben, en fait, je vais sacrifier mon propre revenu pour réduire le vôtre. Mais il y a quand même un tiers des gens qui s'en fichent complètement et qui choisissent toujours la même chose, que leur partenaire soit du même groupe ou pas du même groupe. S'ils sont égoïstes, ils sont toujours égoïstes. S'ils sont altruistes, ils sont toujours altruistes. Et ça, je trouve que c'est l'enjeu de ces travaux sur le groupe. Je pense qu'il y a quand même une implication forte. C'est que cette appartenance de groupe, elle peut quand même conduire à pas mal de conflictualités. On voit aujourd'hui qu'il y a plein de... C'est d'ailleurs la motivation de Rachel Cranton. Il y a pas mal de conflictualités sur la base d'appartenance religieuse ou ethnique. Comment faire pour qu'il y ait plus de gens qui ne soient pas trop groupies, qui ne soient pas trop claniques?
Pourquoi est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il faut lire l'économie de l'identité?
Mais je pense que justement, par exemple, sur cette question-là, c'est très important. L'identité, c'est quelque chose qui est énormément discuté en ce moment. Enfin, aujourd'hui, on tue pour ça. Comment faire pour comprendre que l'identité, ça existe? C'est pas forcément donné à l'avance. C'est fluctuant. On en a plusieurs. Et donc, puisqu'on en a plusieurs, comme dans l'approche interactionniste d'Erwin Goffman, dont Rachel Cranton est très proche, peut-être qu'il faut entraîner les gens, peut-être dès l'enfance, à se rendre compte qu'on a plein de facettes, et donc il faut les relativiser. Elles existent, mais elles ne justifient pas de franchir la ligne de la violence et de la conflictualité.
Merci beaucoup, Claudia Sénig, de nous avoir permis de découvrir l'économie de l'identité grâce à cet ouvrage de George Akerlof et de Rachel Cranton. Il est paru en anglais seulement aux presses universitaires de Princeton. Un grand merci.